Bonjour. Des combats dans la deuxième ville d'Ukraine. La Russie avait promis d'intensifier son offensive. C'est chose faite ce matin. Des tirs nourris dans la ville de Kharkiv. Nous ferons le point avec Eric Biegala, un de nos envoyés spéciaux dans le pays. La guerre qui fait rage, mais Moscou propose des négociations en Biélorussie. Refus ce matin du président ukrainien. L'autre grand titre ce dimanche, c'est ce décompte 368 000 réfugiés hors d'Ukraine selon les Nations Unies. En Roumanie, Georges a sa famille.
24 heures qu'ils sont partis, vous vous rendez compte? Avec seulement du pain, de l'eau et des pommes.
Nous irons à la frontière avec Mathilde Dehimi, invitée de ce journal, François Gémen, spécialiste des migrations, alors que l'Union européenne tente de coordonner l'accueil des réfugiés. Et puis, direction aussi, à la fin de ce journal, le salon de l'agriculture, avec l'arrivée en masse des start-up qui proposent des solutions innovantes pour mieux produire.
France Inter.
Élargir l'offensive, les autorités russes l'avaient promis hier soir, entrer en application cette nuit et ce matin avec cette attaque symbolique. Au quatrième jour de la guerre en Ukraine, la ville de Kharkiv, deuxième du pays, fait face à un assaut russe. Eric Biegala, bonjour.
Bonjour.
Envoyé spécial de France Inter à Kiev, vous suivez les derniers développements des combats en Ukraine avec donc des tirs de rue à Kharkiv depuis quelques heures.
Oui, tout à fait. Après une assez lourde préparation d'artillerie, c'est-à-dire un bombardement hier sur toute la ville, les troupes russes ont pénétré dans les faubourgs de la deuxième ville d'Ukraine, mais aussi la plus proche de la frontière russe, assez tôt ce matin. Alors étrangement, et au vu des images diffusées sur les réseaux sociaux de ces hommes qui progressent dans les rues, les troupes russes n'ont toujours pas l'air de comprendre qu'ils ne sont plus à l'exercice. Ils déambulent à pied, au pas, accompagnés de quelques blindés légers. Normalement, dans ce type d'opération, ceux qui sont à pied se déplacent à toute allure, en courant, et il y a toujours au moins un blindé lourd, au moins un char pour ouvrir la route ou tenir la position. Résultat, les Russes se sont fait accrocher à au moins 3 ou 4 reprises dans les faubourgs de Kharkiv par les défenseurs ukrainiens. Au moins une colonne russe prise en embuscade a été complètement détruite. Les Ukrainiens ont diffusé tout à l'heure les images d'une dizaine de blindés légers totalement détruits dans les premiers faubourgs de Kharkiv. La bataille urbaine dans la ville ne sera visiblement pas un parcours de santé pour les troupes russes.
Et à Kiev, où vous vous trouvez, merci beaucoup Eric Biegala. La nuit a été plus calme en centre-ville de la capitale, mais dans les périphéries nord, sud et ouest, les combats se sont poursuivis. L'état-major ukrainien signale que les troupes russes tentent ce matin de faire la jonction entre leurs différentes positions pour encercler la capitale. Et dans cette ville sous couvre-feu renforcé au moins jusqu'à demain matin et depuis hier soir, quel est l'état d'esprit des Ukrainiens? Roman, 50 ans, habite dans le centre-ville de Kiev. Son quotidien est rythmé par les allers-retours entre son appartement et l'abri à 50 mètres de son immeuble. Il se dit prêt même à prendre les armes, à résister face aux combattants russes.
Je n'étais pas préparé, effectivement, que nous, on va résister. Je pensais que ça va se passer comme en Crimée il y a 8 ans. À l'époque, on avait 5000 personnes sur toute l'Ukraine qui pouvaient se battre. Je pensais que ça allait se passer de la même façon ici en Ukraine. Les gens simples, ils résistent dans des petits villages et les cocktails Molotov, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, tout le monde en fait. Et on fait brûler les tanks. Il y a une résistance de partout et les gens sont super motivés. Et
je fais tout ce qu'il faut, bien sûr. Si je suis mobilisé, je ne veux pas m'enfuir. Tout le monde va pouvoir se battre s'il est mobilisé, bien sûr.
Roman, cet Ukrainien habitant de Kiev, joint ce matin par Marion Ferrer. Et les autorités ukrainiennes annoncent ce matin tenir la ville de Kharkiv. Ce sont les mots du gouverneur. Au quatrième jour de cette guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, la perspective d'une sortie de crise semble bien loin. Avec cette annonce hier d'un élargissement de l'offensive, donc par les Russes, suivi des faits sur le terrain, on vient de l'entendre. Mais ce matin encore, le Kremlin souffle le chaud et le froid. Son porte-parole annonce vouloir engager des discussions en Biélorussie avec l'Ukraine. Proposition refusée immédiatement par le président ukrainien. Volodymyr Zelensky, qui se dit toutefois ouvert à l'idée d'une négociation, mais dans un autre pays. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
Que doit-on comprendre de ces échanges alors que sur le terrain, l'offensive se durcit?
C'est compliqué vraiment de dire s'il va y avoir des négociations prochainement. Il y a d'abord la question du lieu. Les Russes proposent la Biélorussie. Ils ont d'abord évoqué vendredi Minsk, la capitale, puis ce matin, la ville de Gomel, pas très loin de la frontière ukrainienne. Les Russes disent même avoir envoyé des représentants sur place. Mais la Biélorussie est un allié de Moscou. La Biélorussie a laissé les troupes russes passer sur son territoire pour envahir l'Ukraine. Ce qui fait dire à Volodymyr Zelensky, non merci, discuter en Pologne, en Hongrie, en Turquie, en Azerbaïdjan, d'accord, mais pas en Biélorussie, un territoire qui nous tire actuellement des roquettes dessus, a précisé le président ukrainien. Après le lieu, il y a aussi la question du sujet. Négocier, mais quoi? Les Russes, vendredi, disaient être prêts à une discussion, mais seulement si l'Ukraine rend les armes. Hors de question pour le président ukrainien. L'Ukraine se tourne désormais vers la Cour internationale de justice de l'AE pour qu'elle demande à Moscou de cesser toute activité militaire.
Julie Pietri, merci beaucoup. Et les annonces de sanctions se multiplient ce matin encore à l'encontre de la Russie. L'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et l'Italie ferment leur espace aérien aux avions russes. Une décision que la France n'a pas encore prise. Un sujet que nous regardons, indique à l'instant Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, qui était l'invité de questions politiques sur France Inter. Interview à retrouver sur franceinter.fr. Quant aux sanctions économiques, les Occidentaux ont décidé d'exclure de nombreuses banques russes du système de paiement interbancaire SWIFT. Et l'exode se poursuit. Des files d'attente de parfois deux jours pour passer les postes frontières vers la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie. Pour les Ukrainiens qui se réfugient à l'étranger, 368 000 personnes au moins ont déjà franchi une frontière selon le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU. En Roumanie, hier, 12 000 personnes ont passé la frontière, un record au poste où se trouve notre correspondante Mathilde Dehimi. Côté roumain, elle a rencontré des Ukrainiens qui ont fui et leurs proches venus les accueillir.
C'est un appel sans réponse. Depuis des heures, Georges essaie de joindre sa femme, partie avec leurs enfants de la ville ukrainienne de Tchernahoutsk, à 45 km de là.
24 heures qu'ils sont partis, vous rendez compte? Avec seulement du pain, de l'eau et des pommes.
Georges a quitté précipitamment son travail en Italie pour récupérer ses proches à la frontière.
Poutine avance et on ne sait pas jusqu'où ni quand il va s'arrêter. Pour l'instant, à Tchernahoutsk, c'est assez calme. Mais on ne sait pas demain. L'Ukraine n'a pas les moyens de s'opposer à la Russie.
Après 30 km de bouchons, Miroslav et sa famille ont laissé leur père repartir seul en Ukraine. Ils terminent les 5 derniers kilomètres à pied.
Dans un mois, j'aurai 18 ans et je devrais m'engager. C'est pour ça que je pars. Je suis soulagé d'être enfin dans l'Union européenne, mais aussi terrifié, car je ne sais pas ce que sera mon futur.
Soudain passent trois voitures estampillées Corée du Sud. Les ambassades évacuent en urgence leurs ressortissants, confirme Duchent, au milieu d'une cinquantaine d'étudiants indiens.
Notre ambassade nous demande de quitter l'Ukraine par la Roumanie. Elle s'est occupée de l'avion pour nous.
La majorité de ceux qui fuient continuent leur route de l'exode vers le sud de la Roumanie ou vers des pays étrangers.
Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de France Inter en Roumanie, qui nous donne ce midi des nouvelles de Georges, qui n'a toujours pas retrouvé sa famille, déjà 36 heures d'attente à la frontière. Frontière où les militaires ukrainiens fouillent les voitures avant de les laisser passer pour empêcher les hommes d'échapper à la mobilisation générale. Cette crise des réfugiés ukrainiens, elle sera au cœur de la réunion des ministres de l'Intérieur des pays de l'Union cet après-midi à Bruxelles. Et on va tenter d'en comprendre les enjeux avec l'invité de ce journal. François Gémen, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des migrations, enseignant à Sciences Po Paris et à la Sorbonne. Le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, on le disait, dénombre ce matin 368 000 personnes qui ont fui l'Ukraine. On voit des gares bondées côté ukrainien, des files d'attente de plusieurs jours aux postes frontières. L'ONU estime qu'on pourrait atteindre 5 millions de réfugiés. C'est une crise majeure qui se dessine.
Ah, très clairement, nous n'en sommes encore qu'au début et il est possible effectivement qu'on atteigne 5 millions, voire plus de réfugiés. Tout dépend un peu du temps que la guerre va durer et de la manière dont la situation va se dégrader dans les principales villes du pays et notamment dans la capitale Kiev. Pour le moment, 368 000 réfugiés, effectivement, c'est déjà un chiffre assez considérable, d'autant plus que la plupart sont évidemment dans l'Union européenne. Par exemple, la Pologne a accueilli à peu près la moitié de ces réfugiés et jusqu'ici, on voit évidemment qu'il y a un accueil plutôt généreux de la part de pays comme la Pologne, la Slovaquie ou la Roumanie, même s'il y a aussi des rapports qui indiquent que des personnes d'origine africaine seraient empêchées de quitter l'Ukraine ou seraient triées à la frontière polonaise, donc il faudra aussi tirer cela au clair. Mais bien entendu, c'est dans le long terme que les vraies difficultés vont commencer à se poser.
Pour l'instant, aux frontières, les choses se passent bien. Il y a surtout des élans de solidarité, que ce soit, vous le disiez, des populations, mais aussi des États et des ONG.
Il y a très clairement des élans de solidarité importants, des populations qui viennent chercher les réfugiés avec leurs voitures, qui viennent les accueillir dans leur appartement, mais aussi de la part des gouvernements qui ont par exemple autorisé l'accès au marché du travail ou proposé des transports gratuits.
Et que se passe-t-il, que va-t-il se passer dans les semaines à venir? C'est la question qu'on se pose avec cette réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne prévue cet après-midi à Bruxelles. On sait que la France dit vouloir prendre sa part d'accueil des réfugiés. C'est ce que disait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, tout à l'heure sur notre antenne. La France qui peine à faire adopter ce pacte migratoire qui permettrait de répartir les réfugiés et leur accueil dans les différents pays de l'Union européenne. Est-ce que ce pacte migratoire, cet accueil mieux réparti dans l'Union européenne, a des chances de voir le jour à l'occasion, paradoxalement, de cette crise ukrainienne?
C'est la grande question et c'est là que les lignes pourraient évidemment bouger un peu. Parce que la question, c'est de savoir si les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, qu'on appelle parfois les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie, pourront quelque part faire face seuls à cet afflux de réfugiés ou s'ils vont demander l'aide d'autres pays européens. Or, on sait que ces pays jusqu'ici étaient tout à fait hostiles à tout mécanisme de solidarité dans l'Union européenne pour la répartition des réfugiés. Et s'ils étaient hostiles à ces mécanismes, c'est d'abord parce qu'ils n'en voyaient pas l'intérêt, qu'ils considéraient que ces crises ne les touchaient pas. Là, ils sont directement touchés par ces crises, donc peut-être pourraient-ils demain voir un intérêt finalement à des mécanismes de solidarité dans l'Union européenne. C'est là que les lignes peuvent bouger.
Il faut rappeler que c'est une opposition ferme qu'ont opposé ces pays jusqu'ici, notamment à l'occasion de la crise syrienne en 2015.
Tout à fait. Ou encore il y a quelques mois, lors de la crise des réfugiés biélorusses, que le dictateur biélorusse Loukachenko avait fait venir sur son territoire et avait ensuite précipité à la frontière polonaise, on a vu que l'absence de solidarité européenne avait amené la Pologne à construire un mur à sa frontière.
Comment se profilent les négociations cet après-midi à Bruxelles? Du côté de l'Élysée, on estime que la situation pourrait être de nature à faire bouger les lignes?
C'est un sujet qui reste extrêmement sensible dans l'Union européenne. On sait que c'est une source de tension majeure à la fois entre pays européens, mais aussi parfois au sein des gouvernements européens. Et donc jusqu'ici, on avait plutôt tendance à mettre le sujet sous le tapis pour ne pas créer de divisions supplémentaires. Mais là, on sent bien que des lignes sont en train de bouger au niveau de toute une série de doctrines de pays européens. Et il est possible qu'on voit aussi du progrès sur cette question de l'asile et de l'immigration en Europe, qui reste aujourd'hui un sujet qui génère des crises humanitaires absolument abominables, non seulement, bien entendu, aux frontières des pays d'Europe centrale et orientale, mais encore et toujours en Méditerranée ou dans la Manche.
François Gémen, spécialiste des migrations, professeur notamment à Sciences Po Paris, merci beaucoup. Vous étiez l'invité de ce journal de 13h. Le conflit en Ukraine qui a des répercussions dans l'espace, en tout cas la question se pose, la collaboration spatiale avec la Russie qui s'est poursuivie au temps de la guerre froide, pourra-t-elle à nouveau se poursuivre à l'occasion de ce nouveau conflit? Une fusée Soyouz doit être prochainement lancée par Ariane Espace. La station spatiale internationale, l'ISS, on le sait, est partagée par les spationautes du monde entier. Et l'agence spatiale russe a annoncé, Sophie Becherel, suspendre sa coopération avec l'Europe.
La Russie suspend ses tirs depuis Kourou et rapatrie ses 87 ressortissants basés en Guyane. Annonce via Twitter de Dmitri Rogozin, le patron de l'agence spatiale russe. Depuis 26 ans, Roscosmos et Ariane Espace sont associés dans une co-entreprise. Starsem doit d'ailleurs procéder à 4 lancements cette année depuis Kourou, dont celui d'un satellite militaire franco-allemand et des satellites Galileo. Depuis Baïkonour, Ariane Espace a aussi plusieurs missions prévues cette année, dont la prochaine samedi pour le compte de la constellation OneWeb. On ne sait pas si cette mission sera maintenue ou non, les dirigeants du secteur spatial européen se font très discrets, mais nul doute que les relations avec les Russes se sont tendues. Dès vendredi, le patron de l'agence spatiale russe qualifiait les sanctions américaines de sanctions Alzheimer et rappelait que l'ISS a besoin de la Russie. C'est exact, puisqu'il faut régulièrement qu'un vaisseau progresse, rehausse l'altitude de la station. Il y a actuellement 2 Russes, 4 Américains et 1 Allemand à bord. Même si 2 sujets sont bannis, la religion et la politique, l'ambiance pourrait sur la durée se détériorer et une coopération exemplaire de 20 ans s'achever par décision unilatérale de Vladimir Poutine.
Sophie Becherel, spécialiste sciences à France Inter. Cette annonce ce matin des autorités ukrainiennes qui disent avoir lancé un site internet pour permettre aux Russes de reconnaître leurs proches militaires tués en Ukraine avec des photos de documents comme des passeports ou des images de soldats faits prisonniers également. Une tentative sans doute de déstabilisation des autorités russes par l'Ukraine, alors que Moscou est accusé régulièrement de camoufler ses pertes militaires dans le pays depuis l'offensive de 2014. L'ex-étoile de l'Opéra de Paris, Laurent Hilaire, annonce lui son retour en France. Il était depuis 5 ans directeur de la danse au théâtre Stanislavski à Moscou. Il démissionne. « Je pars avec tristesse », dit-il, « mais le contexte ne me permet plus de travailler sereinement ». Les soutiens aux Ukrainiens qui s'affichent encore ce dimanche après les manifestations d'hier un peu partout en France pour demander la paix en Ukraine et pour dénoncer cette invasion russe. Un nouveau rassemblement est notamment prévu cet après-midi à 15h dans la capitale à Paris, place Saint-Michel. Et ce soir, France Inter se mobilise également, émission spéciale consacrée à la situation en Ukraine entre 18 et 20 heures autour de Claire Servagen. 13h16 sur France Inter, l'actualité de ce dimanche, c'est aussi la suite du Salon de l'agriculture à Paris, porte de Versailles, pour la deuxième journée, avec un hall entier qui est consacré cette année à l'agri 4.0. C'est le nom de ces stands réservés aux startups qui innovent et qui présentent des solutions pour une autre agriculture, pour l'agriculture de demain, Kathleen Comte.
Gilles Dreyfus a cofondé Jungle, spécialisé dans les fermes verticales. Économe en place, l'entreprise fait pousser des salades et des plantes aromatiques sur 12 mètres de hauteur, à moins de 100 km de Paris.
L'ensemble de la population augmente, veut habiter dans les villes. Tout le monde veut avoir le choix de fruits et légumes toute la saison. Et c'est sûr qu'il y a un moment où il faut pouvoir produire. Et il y a un sujet de souveraineté alimentaire, d'importation alimentaire. Et donc, comment est-ce qu'on va faire à l'avenir ? L'agriculture verticale répond partiellement à ce problème.
Et tandis que certains se lancent dans l'élevage d'insectes pour nourrir les animaux, d'autres proposent des outils d'aide à la décision pour les agriculteurs, des applications pour mieux gérer son rejet carbone, l'état de ses forêts ou encore lutter contre la surpêche. C'est le cas de Poiscaille. L'application fonctionne sur le modèle des AMAP. Les abonnés sélectionnent leurs poissons en fonction de la pêche du jour et se font livrer. Pour Mathilde Rico, salariée de l'entreprise, le numérique a permis d'accélérer les prises de conscience.
La technologie, en tout cas le web, nous a permis d'accélérer ce processus. C'est surtout de pouvoir faire beaucoup plus de pédagogie. Aujourd'hui, on communique avec nos abonnés sur les espèces, sur les stocks de poissons en France, sur les techniques de pêche et aussi on les accompagne dans la préparation de leurs produits, ce qui les encourage à consommer mieux et plus durable.
Cette année, une 60aine de start-up en lien avec l'agriculture sont présentes au salon, contre à peine une dizaine en 2016.
L'essor des start-up au salon de l'agriculture, c'était un reportage de Kathleen Comte pour France Inter. Et puis, amis auditeurs, si vous voulez faire partie du jury 2022 du prix du livre Inter, écrivez-nous. La date limite, c'est demain sur franceinter.fr ou bien par voie postale France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Dites-nous pourquoi vous aimez tant les livres et pour une séance lecture, ce dimanche reste largement ensoleillé.